Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans Titre, aujourd'hui enregistré au Centre Pompidou. Nous recevons l'artiste Magali Desbazeille. Bonne écoute. Magali, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais commencer par une brève introduction, puis tu me corrigeras et puis on reviendra au fil de l'entretien sur tout ça. Donc tu es artiste plasticienne et performeuse. Tes réalisations sont protéiformes et naviguent entre l'art numérique, la vidéo, la performance, le spectacle vivant. Tes créations se nourrissent d'observations scientifiques, de recherches sociologiques et de réflexions politiques. Ton travail, souvent empreint d'humour, s'intéresse à l'articulation entre le documentaire et l'art.
Mais c'est parfait, je n'ai rien à corriger.
Est-ce que tu peux revenir sur tes études, ta formation et nous dire quelle importance l'école a dans ton parcours ?
L'école a eu, tu veux dire.
L'école a eu dans ton parcours.
Oui. Donc moi j'ai une formation en Beaux-Arts de Paris que j'ai terminée il y a à peu près 30 ans, 29 ans. Donc formation classique, hein. J'ai suivi un certain nombre d'ateliers chez des maîtres, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Et quand je suis sortie, j'étais très jeune, j'avais 23 ans, j'ai fait les Beaux-Arts très tôt, juste en sortant du bac. Pas fait énormément de choses pendant quelques années. J'allais voir quand même des choses que je ne connaissais pas. Je suis allée à la Documenta, je suis allée à Biennale de Lyon. Je voyais toutes ces choses en art numérique. Quand le Frénois a ouvert, j'ai fait partie de la deuxième promotion des étudiants du Frénois. Je voulais y faire de la performance, je voulais y faire des œuvres d'art immersives, je voulais faire de la vidéo, des nouvelles techno. C'est-à-dire que moi, quand je suis sortie des Beaux-Arts de Paris, j'étais obsolète techniquement tout de suite en termes de technologie, puisqu'on j'avais jamais touché un ordinateur. Voilà, donc je ne savais pas ce que c'était qu'une souris, enfin tout ça. On était en VHS à l'époque.
D'accord.
C'était notre époque. Voilà, donc j'ai fait la formation du Frénois, et là, ça m'a vraiment donné les outils pour ensuite pouvoir m'investir dans les projets que je souhaitais monter, qui sont toujours des projets, oui, collaboratifs, avec des compétences partagées, avec des ingénieurs, des dramaturges, des auteurs, compositeurs, voilà.
Donc,
techniciens, ingénieurs, développeurs.
Tu as eu un DNSEP ?
Je crois qu'au Beaux-Arts, ça s'appelle un DNSAP. C'est un nom un tout petit peu différent au Beaux-Arts de Paris, mais
d'accord,
c'est un DNSAP.
Ouais. Okay. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y avait quand même déjà les prémices de ce que tu allais faire plus tard, puisque tu dis que techniquement, c'est le Frénois qui t'a beaucoup apporté. Pourquoi tu as eu cette appétence pour l'art numérique et pour que ça vient d'où ?
Ben, je pense que je suis toujours allée voir beaucoup d'expositions. J'ai eu la chance d'habiter à Paris très jeune. Et donc à chaque fois, par exemple, je sais pas, quand j'ai commencé, j'avais je sais pas 16, 17 ans, je faisais de la peinture, j'allais voir plein d'expos, mais j'aimais pas les peintres contemporains et je me disais ah, c'est quand même bizarre, je vais pas être la seule peintre contemporaine, enfin ça n'allait pas. Donc après je m'intéressais à des choses qui impliquaient plus ce qu'on appelait à l'époque du multimédia. Donc d'accord. À l'époque le multimédia, c'était du pluridisciplinaire, c'était un autre nom. Après c'est devenu du CD-ROM, ce qui n'est plus le cas et après voilà. Voilà, et donc en allant voir des expos où ces œuvres m'ont beaucoup impressionné et intéressé, j'ai eu envie d'essayer de faire ces choses qui me plaisaient, tout simplement.
D'accord. Et pour revenir à ta formation, est-ce que tu t'attendais à ça en sortant d'école d'art ? En sortant du Frénois, par exemple, c'est quand même une école, enfin je ne sais pas à quoi ça ressemblait la deuxième année d'existence du Frénois, mais c'est quand même une école où maintenant, quand il y a un étudiant qui vient, il sait un petit peu qu'il a quand même des chances de carrière peut-être un peu plus certaines que d'autres étudiants qui sortent des Beaux-Arts de Montpellier, j'en sais rien.
Alors, à l'époque, quand on sortait des Beaux-Arts du Paris, même quand je suis sortie du Frénois en 2000, les institutions, enfin ces établissements n'étaient pas du tout opérationnels pour lancer les carrières d'artistes comme elles le sont maintenant. Ça n'avait absolument rien à voir. Déjà, à l'époque, aux Beaux-Arts, quand j'ai fini en 94, on n'était pas du tout sur l'émergence. Ce paradigme de l'émergence qui est de plus en plus émergent. Hein. Maintenant, on voit les appels à projets divers et variés. C'est à DNSEP plus 5, DNSEP plus 3. Voilà, ça devient même un petit peu, je pense, un peu excessif. À l'époque, c'était pas ça du tout. Hein. On était un artiste, on commençait à être un jeune artiste reconnu à 40 ans. Donc moi, j'ai connu l'inversion de centre d'intérêt, quoi, très très clairement.
Mais jeune artiste, ça ne veut pas forcément dire artiste d'un jeune âge.
Oh, si, quand même, il y a quand même un lien. Si, non, bah, ça ne marche pas.
L'autre jour, bah, si, attends, je me baladais au Salon de Montrouge il y a quelques jours et j'ai vu une tapisserie d'une artiste qui devait avoir 70 ans, je crois.
Ah bah, tant mieux s'il y a des variations et que ce que je dis n'est pas... Mais ça, c'est l'exception qui confirme la règle quand même.
Oui, probablement, voilà. Probablement.
Ouais. Voilà, donc en sortant du Frénois, le Frénois n'était pas encore équipé et n'avait pas un rôle comme il l'a maintenant de plus de producteurs. C'était pas le cas. Ceci étant dit, ça m'a fait une très belle lancée. J'ai eu un prix Ars Electronica à Linz. Voilà, j'ai travaillé avec Meg Stuart. Enfin, j'ai fait des choses assez inscrites rapidement.
Alors pour parler de tremplin, justement, ouais. Le prix Ars Electronica, ça doit changer les choses, non ?
J'ai pas assez surfé dessus, je pense. Oui, bien sûr. La pièce a beaucoup tourné, bien sûr.
Mm-hmm. Comment se sont passés tes premiers pas, du coup, en sortant de l'école du Frénois ? T'as fait quoi ? T'as commencé par quoi ? T'es allé voir qui ? Est-ce que t'as signé avec des galeries ?
Alors moi, j'ai pas un boulot de galerie, parce que j'ai un boulot d'installation, de numérique et de performance. Donc et de commande publique, ce qui était peut-être pas précisé. Voilà, je fais aussi des 1%. Donc je suis pas du tout j'ai jamais été dans le boulot de galerie, donc c'est peut-être pas maintenant que je vais commencer à m'y pencher. En fait, la pièce que j'ai produite au Frénois, c'était une de leurs premières œuvres avec vraiment de la recherche et du développement en sciences de l'ingénieur. Voilà, il n'y avait pas eu ça jusqu'à présent. J'ai travaillé en lien avec un ingénieur qui s'appelle Siegfried Canto, qui est devenu compositeur, mais avec les outils de l'IRCAM, on a vraiment fait une pièce avec un développement logiciel qui, à l'époque, était extrêmement novateur. Donc, du coup, ça nous a amené beaucoup à être diffusé dans des festivals d'art numérique. Voilà. Mm-hmm. Et puis, à trouver un autre producteur pour la pièce suivante. Je fonctionne plutôt comme ça. Au projet, avec des appels à projets ou avec des producteurs que je démarche, que ce soit pour les installations ou pour les performances.
D'accord. Et okay. Ça a fonctionné comme ça très rapidement.
Avant même la sortie du Frénois.
D'accord, ouais.
J'ai été pas mal soutenu.
Ouais, donc quand même, mais déjà, ouais, déjà la deuxième année, le Frénois, c'était un bon incubateur, quoi.
Oui. Ouais. En tout cas, pour moi,
en tout cas, ça t'a réussi, pour toi, c'était le cas.
Ouais. Ouais. Ça a été le cas, et ça m'a donné aussi une méthodologie de travail et un savoir-faire de travail qui fait que j'ai aussi pu très vite trouver un poste en école supérieure d'art. Comme à peu près tous les jeunes qui sont sortis du Frénois, en tout cas les jeunes promos qui sont sortis du Frénois. Maintenant, on est en poste et c'est long.
Et les places sont chères.
C'est cher.
Il faut
falloir attendre. Ouais. Je sais, c'est dur ce que je dis, mais j'en suis bien consciente. Ouais.
Oui, d'accord. Ouais. Et donc, tu es également prof.
Oui, je suis prof aux Beaux-Arts de Bourges.
D'accord.
Et avant, j'ai été professeur aux Beaux-Arts de Cambrai et à la classe préparatoire d'Issy-les-Moulineaux.
D'accord.
Très vite en sortant du Frénois. Le Frénois m'a aussi permis d'acquérir cette méthode de travail de projet qu'on monte en équipe avec des recherches de budget, ce qui était quand même des compétences assez inhabituelles et assez recherchées.
C'est important ce travail secondaire ?
Je sais pas si c'est un travail secondaire, enfin je sais pas si je mettrais une hiérarchie comme ça, mais en tout cas enfin, je suis prof parce que j'ai une qualité d'artiste. Et ça me permet aussi d'avoir plus de sérénité et plus de fluidité et de ne pas être justement derrière, à courir derrière le projet, l'appel à projet, l'émergence, qui à un moment quand même passe, l'émergence.
Probablement. Ouais. En fait, je te pond de nous. Alors, on l'a écrit travail secondaire, probablement par... à cause de notre biais à nous, quand on a rédigé les questions. Ouais. En fait, la question qu'il y a derrière, c'est aussi le rapport, justement, en tant que prof.
L'interaction
avec les étudiants. Est-ce que c'est important ? Est-ce que ça t'apporte ? Est-ce que ça te nourrit, ce travail-là ?
Alors, là où c'est intéressant, les générations changent. Vu l'expérience que j'ai maintenant, quand même une bonne vingtaine d'années d'enseignement, les générations changent. Oui, ça me permet de rester au fait de toutes les problématiques que les jeunes de 20 ans soulèvent, qui sont les questions postcoloniales, les questions de genre. Je pourrais passer totalement à côté de ça dans mon quotidien. Et en plus, j'ai des enfants du même âge, mais qui ne sont pas dans ces questionnements-là, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs. Mais ça me permet du coup d'être en lien avec une génération qui a d'autres positionnements, d'autres questionnements, d'autres façons de faire.
Et ce lien-là, il nourrit, il interfère aussi
ah bah c'est
la
quand
façon
même un lien,
d'aborder toi, ta création, tes productions personnelles, tes réponses à projets, etc. ou pas,
alors, je dirais pas ma production directement, peut-être pas, mais c'est quand même un lien au contemporain qui est hyper important.
Oui,
dans des questions de société, c'est hyper important. Surtout que j'ai un boulot qui est assez lié à des recherches autour de questions sociétales. Mmh. Donc c'est quand même... moi, je vois ça comme une chance.
Enfin, ouais, ouais.
Je veux dire, quand je vois comme ils disent, des darons et des daronnes de mon âge qui ne sont pas en lien avec des jeunes, je vois bien le décalage important.
Ouais. C'est un poste d'observation.
C'est un poste d'observation privilégié.
Ouais.
Vraiment.
Mmh. Et du coup, tu peux nous parler de ton économie de production. Est-ce que les deux activités ont une trésorerie séparée?
Ah oui.
Ou est-ce que c'est interdépendant? Comment ça se passe?
Alors, les deux activités ont une trésorerie séparée. Elles ont même un compte bancaire séparé, si c'est
oui,
le...
Certes, oui.
Si c'est...
Oui.
C'est-à-dire que j'ai un salaire qui arrive sur un compte courant, comme plein de gens, voilà, avec un chéquier et une carte bleue. Et puis, j'ai un autre compte, qui est mon compte pro, avec un comptable, sur lequel je reçois mes honoraires d'artiste ou mes revenus d'artiste. Et un comptable qui me fait ma comptabilité sur ces revenus-là. Voilà.
Je pense que c'est pas tout à fait la question.
C'est pas ça. J'ai mais pas compris, alors.
Mais enfin, c'est bien qu'on en parle aussi, mais effectivement, c'était plus... est-ce que ça t'arrive, en fait, de payer ta production avec ton salaire de prof?
Ah, non. Ça, j'arrive, heureusement, depuis un moment, mes productions sont produites.
D'accord. Mm-mm. OK. Donc,
tout à fait.
C'est vraiment deux chemins complètement séparés et c'est pas des vases communicants une activité remplace...
Ça fait un moment quand même, je réfléchis, là j'avais effectivement pas compris la question, désolé. Comme je le disais au début, je fonctionne plutôt avec des appels à projets, avec des productions, et non pas comme beaucoup d'artistes qui travaillent en galerie, qui font eux-mêmes leurs pièces et qui après espèrent les vendre. Voilà, j'ai jamais fonctionné comme ça. Donc, du coup, pour les projets que je mène, ben il y a des subventions qui rentrent, et après je paye des gens, je me paye dessus, je paye le matériel. Mmh. Et sur ce compte pro, donc sur cette activité professionnelle, je m'en sors bien parce que j'arrive à avoir de la trésorerie qui me permet d'avancer les prods quand les contrats mettent du temps à signer, quand les versements de subventions mettent du temps à signer. Donc j'ai une trésorerie qui me permet sur ce compte-là d'avancer les avances nécessaires pour plein de productions.
D'accord. Mmh. Et sur ton activité d'artiste, ta pratique artistique,
ouais.
Puisque j'ai l'impression que ton travail de prof est aussi une activité d'artiste.
Ben oui, oui. Je suis recrutée en tant qu'artiste quand même.
Tout à fait, bien sûr.
Sinon, je n'y serais pas. Ouais.
Voilà. Donc, sur ta pratique, j'ai oublié ce que je voulais demander. Merde.
En tout cas, sur mes... Alors, peut-être je finis juste un truc. Vas-y.
Non, de toute façon, j'ai...
En tout cas, sur ce compte pro, on va dire, et j'arrive à me rémunérer sur ces productions.
D'accord. Oui, c'était ça.
C'était ça, anticipé.
En fait, donc la question de qui paie, en fait, tu fais beaucoup de dossiers, tu présentes des concours, tu montes des dossiers de subventions. C'est comme ça que ça se passe.
C'est plus ou moins comme ça que ça se passe. En fait, j'ai précisément, si on est vraiment sur des questions économiques, et c'est ça que tu souhaites que j'aborde, j'ai trois façons de faire. Alors, je suis inscrite à la Maison des Artistes, et je fais des notes d'honoraires, et je suis à la DAGP pour les droits d'auteur, qui me ramène, je crois, cette année, je sais même pas s'il y a trois chiffres cette année dans le truc. Enfin, c'est vraiment très bas, ce truc-là. Et donc, quand je fais une expo, je fais une note d'auteur, ou je sais pas, une étude, je fais une note d'auteur. Ça, c'est le fonctionnement artiste classique, Maison des Artistes. Et puis, j'ai deux autres types de fonctionnement. Pour mes performances, j'ai une compagnie, comme une compagnie, avec une administratrice, qui est une administratrice qui travaille pour plein de compagnies et que je paye à l'heure pour certains documents. Parce qu'effectivement, pour les performances, il m'arrive régulièrement de toucher des subventions qui arrivent plutôt du spectacle vivant, qui a une économie moins sèche que les arts plastiques quand même. Et là, il est nécessaire d'avoir une compagnie. Je suis obligée d'avoir une personne morale, une structure de portage. Voilà, on ne verse pas des trucs à une artiste, ça ressemble à rien dans ce milieu-là. Ouais. Donc là, j'ai une compagnie qui est très, très, très modeste, mais qui me sert de structure de portage, qui me sert aussi à rémunérer des collaborateurs quand il y en a besoin. Et puis, j'ai un troisième... façon de fonctionner pour les commandes publiques, où je bosse avec Olivia Sapé, Bossa, Enfin, Bossa, c'est le nom de son bureau. Donc là, c'est comme elle fait la production déléguée, on va dire, de mes commandes publiques. Donc je travaille avec elle. Elle prospecte toutes les commandes publiques en cours. Elle me propose celles qui lui semblent plus adaptées à mon profil. On valide ensemble. OK, on y va. On fait les dossiers de dépôt pour les études. Et puis ensuite, on travaille en binôme pour faire les études et parfois les productions.
OK, OK.
Et auquel cas, là, c'est elle qui gère entièrement la production et moi, je touche juste mes honoraires.
D'accord, OK.
Ouais.
Ah, c'est bien ce... Alors...
Donc, trois types de fonctionnement. Ouais. Enfin, quatre, en fait, en y réfléchissant, ouais. C'est un peu... Donc, il y a beaucoup de dispersion administrative dans tout ça. C'est pas génial, de ouais. ce point de vue-là. L'intérêt que ça a, d'abord, c'est que j'aime bien naviguer dans plusieurs... on va dire, modalité artistique. Pour moi, c'est important, même, je veux dire, conceptuellement, d'être dans différents milieux et d'avoir différentes grilles de lecture du monde de l'art.
Oui. D'autant qu'en plus, dans ta pratique, dans l'art numérique, c'est vrai que c'est, y a beaucoup de liens avec le spectacle vivant. Souvent, les festivals comme Nemo ou
Ars sont liés.
Sont liés. Enfin, c'est hyper cohérent. Mmh. Où est-ce que tu produis un atelier?
Non. Non, parce que les performances comme ça ou ce type de choses, j'ai pas vraiment besoin.
Non, très bien.
Donc, je pars en résidence de création.
Ouais.
Et puis, sinon, je bricole chez moi et je pars en résidence de création. Mmh. Et je stocke dans mes caves. J'essaye de... Après, c'est une question de... Enfin, voilà, je suis pas quelqu'un qui multiplie les stockages.
Ouais.
Je me dis plutôt, OK, là, j'ai ça, comme il faut que ça rentre dedans, quoi.
OK, OK, OK. T'en fais beaucoup, des résidences?
Pas énormément. Pas énormément, parce que moi j'ai deux enfants à charge quand même. Enfin, là, j'en ai plus qu'un, le grand est grand maintenant, effectivement. Donc, je dis encore deux, j'ai un peu de mal à dire j'en ai plus qu'un à charge, mais j'ai deux enfants. Donc, ça, c'est une grosse implication dans le travail artistique quand même, en termes de déplacement. Les résidences, c'est un truc pour les jeunes où on gagne rien et si, quand même, faut le dire, c'est quand même un truc pour les jeunes où on gagne absolument rien et qui n'est pas viable sur la durée, quoi.
Voilà. Est-ce que tu veux parler de ça, des résidences et de la maternité ou
Oui, si tu veux. Ouais.
C'est un sujet qu'on va aborder aussi avec d'autres invités. C'est pas une obligation.
Pas de souci, non, avec plaisir.
Mais c'est vrai que c'est très, enfin, étant, moi aussi j'ai des enfants, ma femme est artiste aussi, et on s'est vite rendu compte au moment où, enfin, moi aussi j'ai un enfant. Pas, on s'est vite rendu compte que c'était compliqué de faire des résidences, bizarrement surtout pour elle, alors que. La charge est partagée à moitié, mais il y avait des certains lieux qui mettaient des conditions qui étaient compliquées aussi dans l'accompagnement. Toi, est-ce que tu as des expériences à raconter qui ressemblent à ça?
Évidemment, j'ai fait des résidences d'artistes un peu longues, un mois, deux mois, avant d'avoir mon premier fils qui est né en 2002, et puis après. Voilà, parce que partir un mois, deux mois, c'est beaucoup trop long en tant que mère, pas que maman. Les délires du genre « on va vous faire garder votre enfant sur place », ça marche quand ils sont tout petits et encore. Et de toute façon, à un moment, un enfant est scolarisé, on le trimballe pas comme un paquet n'importe où. Enfin, ça marche pas du tout, cette histoire. Voilà, et depuis, je pars en résidence de créa sur des durées assez courtes, une semaine, deux semaines maximum, vraiment pour produire, passer en phase de production de certains projets. Donc, j'ai un gros temps d'enquête, de collecte d'informations, de lecture, de contenu, de recherche, des bricolages à la maison un peu chipouille, je dirais, et après je passe en prod sur un temps très court.
D'accord.
On verra, peut-être que quand le plus jeune sera parti, peut-être que j'en referai, mais après toutes ces résidences, en tout cas au niveau du milieu de l'art, enfin, il y a un problème économique, quoi. Enfin, ça...
C'est vrai. En fait, c'est drôle parce qu'on court après quand même. Enfin, je suis d'accord avec toi. Effectivement, il n'y a pas d'argent, mais on court quand même derrière. Quoi.
Alors moi, pourquoi je ne cours pas derrière? D'abord, parce qu'effectivement, et puis moi, j'ai quand même un job de prof. Hein, ouais. Donc, je ne vais pas partir trois mois pour une résidence payée 900 euros par mois. Enfin, tout ça ressemble à pas grand-chose. Ce n'est pas viable.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment une envie arrive? Est-ce que tu es en premier lieu pris par une problématique? Une thématique, ou est-ce que c'est un désir formel? Comment l'idée elle naît? Comment un travail commence?
Depuis une dizaine d'années, je dirais, c'est une problématique qui me traverse. Ouais. C'était probablement pas le cas avant. J'ai probablement eu des idées de forme, ou des idées d'interaction, ou des idées d'image. Et là, depuis 10-15 ans, c'est vraiment des problématiques plus sociétales, plus politiques qui m'intéressent et que je creuse, étudie, dont je fais le tour pour ensuite en faire quelque chose. Là, ce que je vais présenter à Hors Piste, donc une performance et puis une nouvelle installation qui est une sorte de dispositif de jeu. J'y repensais récemment, la performance, elle a commencé en 2016. J'ai reçu mon première demande d'avis d'évaluation de la part de la FNAC pour avoir acheté un manuel d'anglais 4e, 3e pour un de mes fils qui pédalait un peu dans la semoule en anglais. Et donc, je reçois ce premier email de demande d'évaluation qui était formulé comme ça. C'était marqué « Alors heureuse ». Donc, entre le « Alors heureuse » qui sous-entend un truc un petit peu sympa, sensuel, qui rappelle un peu le cinéma, et ce manuel d'anglais qui n'avait absolument rien de formidable, je me suis dit « C'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Je travaille beaucoup sur le langage, donc ce bout de langage m'a plu, je l'ai mis dans un dossier. Et puis, j'ai bien collecté au fur et à mesure des mois, j'en ai reçu de plus en plus. Et puis, à un moment, avec Julie Valero, qui est la dramaturge, qui est enseignante-chercheuse à Grenoble avec qui je travaille, à un moment, je me suis dit, il y a un truc quand même avec cette évaluation, la permanente, on demande de... Voilà. Donc, petit à petit, on a commencé à étudier un peu ce sujet, à lire des articles universitaires dessus, à demander aux amis de collecter tout ce qu'ils recevaient et à écrire un projet dessus. Voilà.
D'accord.
Et là, pardon, si je peux me permettre, et donc, dans cette performance, j'ai choisi de faire le grand écart entre toutes ces évaluations qu'on reçoit en permanence, qu'on nous demande de faire selon tous les domaines, et le fait de recevoir des coupes, des médailles et des trophées et d'être gratifié. En fait, je fais le grand écart en le fait de recevoir une médaille ou recevoir un like ou un avis et un commentaire, ça, c'est un peu le même ressort émotionnel. Et dans la performance, à un moment, donc, j'ai plein de trophées et il y a des trophées que j'ai démontés, que je renfile sur un truc, enfin, je fais un truc un peu rigolo plastiquement. Et ça, je me suis dit quand même, plastiquement, cette forme, elle me plaît bien, quoi. Et là, je suis très contente pour Hors Piste. J'ai eu avec Géraldine Gomez en échangeant, je me suis dit, je vais développer vraiment ce petit bout d'élément et je suis partie cette fois de la forme. Voilà. D'accord, pour présenter ce qui va s'appeler le jeu des big trophées, où je suis partie de la forme pour en faire un jeu et je me déplace complètement esthétiquement par rapport à ce que je faisais jusqu'à présent.
D'accord. Tu as une méthodologie, justement, quand tu dis t'es pris par une thématique, par une problématique. Mmh. Est-ce que tu as une méthodologie pour l'aborder, pour un système que tu mets en place pour ensuite lui donner une forme?
Alors, je ne sais pas si c'est un système, mais en tout cas, je commence en général par lire des bouquins théoriques, des bouquins universitaires, des podcasts, des émissions. Je contacte très souvent les chercheurs dont je lis les bouquins, et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on est plutôt bien accueillis. Ça les intéresse globalement, ils se demandent c'est quoi ce... Voilà. Enfin, ils sont peut-être rarement sollicités, ou en tout cas j'ai plutôt un bon accueil. Donc je les interviewe, je les dérush, enfin, voilà, je garde de tous ces éléments-là. Il m'est arrivé aussi de travailler avec certaines entreprises, plutôt du monde corporate, on va dire, de l'entreprise à la défense, quoi. Voir un peu comment... Donc je fais tout ce travail d'enquête et je collecte aussi tous les éléments de langage assez particuliers et amusants, enfin amusants ou décalés. Autant dans l'art contemporain, on en a un qui est particulier de langage, dans d'autres domaines aussi. Je fais ça et souvent, il y a une sorte de parallèle avec des choses plutôt autobiographiques. Et en fait, en tant que performeuse, je montre un peu mon processus de chercheuse, comment les choses me traversent, comment j'ai reçu ce like, cette demande d'évaluation, comment j'ai cherché à faire ce truc-là. Comment j'ai essayé d'être clickworkeuse, comment j'ai pas réussi à être clickworkeuse, voilà. Enfin, si j'ai réussi, mais en gagnant, enfin, comment j'ai pas réussi à gagner de l'argent en tant que clickworkeuse.
Mais par exemple, comment tu sais, une fois que tu as la problématique qui t'intéresse, que tu vas plutôt aller vers peut-être de la performance, peut-être une pièce physique, comment tu sais avec qui tu vas amener ça? Puisque tu dis que tu as plusieurs structures,
alors,
tu
vois. Oui, je comprends.
C'est naturel ou pas?
Bon, tout est culturel, je crois, dans d'autres
non,
domaines.
Mais... naturel, je voulais dire.
Je dirais tout est culturel, ouais, quand même. Okay. Mais je blague. Sur ces problématiques-là, je le travaille quasiment toujours en performance depuis plusieurs années.
Ouais.
Voilà. Et pas mal avec Julie Valero. Et ce travail d'enquête, je le déploie vraiment en performance. Après, le travail de commande publique, c'est très différent parce que là, je pars de contraintes imposées assez fortes en général. Et les 1% auxquels je candidate ou que j'ai pu produire, dont j'ai été lauréate, me permettent aussi de travailler autour de réflexions sur le numérique, sur la société. J'en ai fait un autour d'Ada Lovelace, que vous connaissez peut-être, qui est l'inventrice du premier algorithme, une anglaise, 19e. J'en ai fait un sur, on va dire, les archives de l'instruction publique. Donc voilà, donc là, c'est moi qui propose par rapport à des contraintes imposées par le commanditaire. Je sais pas si j'ai bien répondu là. Ça va ?
Aucun.
Ok, je me disais, est-ce qu'on est...
Moi, j'aimerais bien, j'aimerais bien parler des 1%. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cet axe-là ?
Alors, la première fois, je m'intéressais pas du tout à ça. Et c'est un de mes producteurs qui s'appelait à l'époque Made in Production, un de mes producteurs, Vincent Hesch, de spectacle vivant performance, qui m'a dit, oh, regarde, il y a ça, tu veux pas qu'on candidate à ce truc-là? Je dis, oh, tu crois? Donc, c'était plutôt quelqu'un Vincent Hesch, qui m'a proposé d'essayer ça. Ça a pas marché. Mais du coup, j'avais commencé à élaborer un projet qui me plaisait assez bien, quoi. Je me disais, oh, quand même, ce projet, voilà. Donc, du coup, je me suis un petit peu renseignée sur les autres, offres de 1% qui apparaissaient, et puis au bout d'un moment j'ai réussi à le proposer pour un premier collège dans le Pas-de-Calais. Et qu'est-ce qui m'intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est peut-être de m'adresser à un public qui est pas du tout le même que celui auquel on peut être confronté quand on vient ici au Centre Pompidou ou qu'on a dans les galeries privées. Voilà, c'est un public qui est pas du tout forcément le public, enfin qui est pas le public du monde de l'art, et ça m'intéresse de réfléchir à comment un travail peut allier à la fois une certaine exigence plastique, conceptuelle, et une accessibilité pour un public qui peut être parfois jeune, hein, collège, lycée, université.
Tu penses que ça marche? Tu penses que c'est une réussite? Justement, tu penses qu'ils ont accès à ton travail quand tu fais ces 1%?
Oui, pour certains, j'ai eu des retours positifs. Oui, il y en a certains pour lesquels j'ai fait des ateliers, j'ai présenté le travail. Les collégiens étaient plutôt contents. Oui, j'ai fait un hôtel de police aussi. C'était assez intéressant d'échanger avec eux sur le projet, les choix textuels que j'allais faire. J'en ai fait un pour un rectorat et un pour un lycée. Alors, ça marche, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça marche, s'il y a une belle réception, oui, parfois, bien sûr, pas tous, enfin, certainement pas tous, il y en a qui doivent pas du tout aimer. Cette question-là, tu peux la voir aussi en galerie, en expo, hein, mine de rien, quand même. Il y a le nombre de gens qui disent, moi aussi, je peux le faire, on l'entend dans les musées, quoi. Mon petit-fils le ferait, c'est quand même quelque chose qu'on entend voilà, dans les expositions. Il suffit de monter, je pense, là-haut, on doit l'entendre. C'est toujours la même chose. En tant qu'artiste, on nous remonte pas ces choses-là. Et c'est les personnes qui pensent ça viennent pas forcément nous le dire. Alors si, je l'ai eu une fois, on en parlait juste avant de brancher. Bien sûr, oui, de temps en temps, ce premier 1% que j'avais fait pour un collège à Le Forêt dans le Pas-de-Calais, les jeunes étaient plutôt très contents. J'avais travaillé sur leur écriture SMS, j'avais valorisé le travail SMS, c'était en grand format sur la façade, donc il y avait un truc qui pour eux leur appartenait. Et la prof, une des profs de français m'a dit, bah, dis donc, heureusement que ça plaît aux jeunes, si c'est ça l'art maintenant,
Ah, yes. Voilà.
Bon, mais
c'est un de tes publics favoris, c'est les profs aussi. Ouais.
Voilà, donc moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'elle m'a dit heureusement que ça plaît aux jeunes. Donc je me suis dit, ça c'est pas mal.
Oui, voilà.
Après, je me suis dit, mais voyons, c'est fort mal élevé. Normalement, on doit quand même représenter un minimum de politesse. Mais bon, ça c'était raté, quoi. Ouais.
Mais tu penses pas que parfois les artistes et ce qu'ils dégagent de des problématiques qui sont liées à l'argent j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils dégagent vraiment, font que la politesse, parfois, on s'en sépare facilement.
Je suis pas sûr de comprendre la question.
Moi, quand je dis que je suis artiste, que je fais des arts visuels, souvent j'ai des gens qui disent ah, puis d'un coup, ma famille en premier d'ailleurs peut dire ah bah tiens, l'autre jour ils ont raté ça à l'expo, c'était nul, hein. Voilà.
Ah oui, oh bah ça, oui, oui, bah ça, oui, on mourra avec ça. C'est-à-dire que l'art, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire que les gens se permettent d'avoir un jugement très lapidaire sur l'art parce que c'est censé leur appartenir et puis.
Oui.
Mais après, j'entendais une fois une collègue dire un truc, je me suis dit tiens, c'est pas mal ça. Je veux dire, si on connaît pas le foot, par exemple, on regarde un match de foot, on s'ennuie quand même mortellement. On voit des bonhommes qui courent. Enfin, moi, je n'ai pas les codes. Voilà. À l'art, c'est pareil. Si on n'a pas les codes, on s'ennuie mortellement. ça vaut ce que ça vaut, mais je me suis dit, bon, je peux le recaser à ces personnes qui m'expliquent. Oui, oui. Non, mais ça, on l'aura toujours, bien sûr.
Est-ce que... Oh, je t'en prie.
Non, enfin, à t'entendre, j'ai l'impression que finalement, tu accumules vite pas mal de documentation, de réflexion, de recherche, etc. Et que tout ça, ça constitue des petits lots de... bah, peut-être de pièces en devenir ou de projets en devenir. Et c'était ça rapporté au concours, aux appels à projets, etc. C'est-à-dire, comment ça se passe? Est-ce que des fois, tu vas repiocher dans ce stock un peu d'idées et de débauches, d'envie, et tu te dis, ah ben là, cet appel à projet, c'est parfait, parce que moi, j'avais déjà commencé à gamberger quelque chose, et hop, je le case. Ou est-ce que c'est plus souvent, la thématique soulevée par ce projet-là me plaît, et ça tombe bien, bon, je ne l'ai pas forcément défriché avant, mais je m'en saisis entièrement.
Ça peut être les deux.
Comment ça...
Ça peut être les deux.
C'est-à-dire que des fois, tu as du temps de production qui en soi, en tout cas de réflexion, qui trouve pas nécessairement sa concrétisation.
Sûrement, j'ai jamais réfléchi. Tu dirais, je suis pas sûre. Depuis plusieurs années, quand même, j'ai toujours des trucs qui se tuilent.
Ouais.
En ce moment, je travaille sur quoi? Je peux donner un exemple concret pour réfléchir à ta question. Je suis pas sûre de travailler à vide, ou je peux plus travailler à vide. J'ai quand même une charge d'enseignement assez conséquente, une vie assez intense avec, contrainte aussi avec les enfants, et pas mal de projets en cours. Donc, cette liberté que j'ai pu avoir quand j'étais au Beaux-Arts ou comme jeune artiste, je pense que ça fait longtemps que je l'ai perdue.
D'accord.
Ou perdu ou plus, ou peut-être tant mieux, j'en sais rien, mais ça j'ai, c'est peut-être plus un travail d'atelier, ce genre de choses. Par exemple, en ce moment je travaille sur quoi? Je travaille pour Hors Piste, donc je vais réactiver cette performance qui existe déjà. Je suis en train de produire ce qu'on appelle le jeu des bits trophées, donc là je suis vraiment en phase d'aller chercher les trophées, de travailler avec une personne qui m'aide pour faire toute la partie, on va dire, juste menuiserie opérationnelle simple. Voilà, donc là, je suis en production pour ce projet-là. Là.
Mais pour tout ça, tu as déjà le cadre et l'enveloppe.
Et j'ai déjà cadre et l'enveloppe. Et j'avais produit cette performance et cette forme de trophée m'intéressait, mais je ne l'avais pas développée. Et là, en en parlant à Géraldine, à la règle du jeu, et puis je travaille aussi avec une commissaire d'expo qui s'appelle Julie Sicomaillé, qui m'en a parlé, je me suis dit, oh, bah, tiens, c'est peut-être l'endroit où je pourrais développer ça, que je n'avais pas fait.
D'accord.
Et puis, je travaille sur quoi? Je travaille sur une prochaine performance qui s'appelle IA 53 recettes chic et gourmandes pour les fêtes de l'apocalypse. Et donc là, je travaille une performance, donc je vais faire de la cuisine moléculaire sur les IA de générative et prédictive.
Ouais.
Donc là, je suis en phase. J'interview demain Yann Ferguson sur IA et emploi. Donc là, je suis en phase de collecte. Je travaille avec Julie Valero. On a un soutien Quai des Savoirs qui nous a déjà souvenu, et on a un soutien par le CNRS, par Julie Valero. Et puis là, je vais avoir une étude pour une phase d'étude. Hein. Je ne suis pas lauréate, je suis dans les finalistes pour un palais de justice sur Gisèle Halimi, qui est à Rouen. Donc là, j'ai lu 3 bouquins de Gisèle Halimi, je vais en lire un 4e. Mais quelque part, j'adore, je suis hyper contente. J'aurais jamais lu Gisèle Halimi parce que j'ai plein d'autres préoccupations, et je suis hyper contente je l'avais déjà lu, mais j'aurais jamais lu tout, les 4 bouquins, d'avoir eu l'occasion. C'est pour moi aussi, voilà, je me crée des obligations et des occasions.
Oui, d'accord.
Du coup, j'ai pas de recherche à vide comme ça.
J'aimerais qu'on parle du point de vue extérieur. Est-ce que t'as des gens ou une personne ou des personnes qui t'accompagnent dans ton travail de loin, qui ont un regard qui compte pour toi?
Oui, j'ai Julie Valero avec qui je travaille, qui est ma collaboratrice dramaturge. Il y a Olivia Sapé qui est ma productrice. Enfin voilà, j'ai des gens quand même très proches qui suivent mon boulot et avec qui je suis en collaboration.
Et c'est important. Est-ce que ça peut changer le cours d'un travail? Est-ce que ça peut arrêter un travail?
Alors, je dirais pas que ça peut changer ou arrêter un travail, mais là, avec Julie, on travaille ensemble. Enfin, ça impacte le travail fortement, bien sûr. Je lui montre pas des trucs et elle me dit fais-le en rouge et je passe en rouge. Non, c'est plus.
Oui, j'imagine bien.
Voilà.
Influence, consciente ou non, effet de mode. Alors, influence, consciente ou non, effet de mode. Comment tu te positionnes par rapport à l'environnement créatif ?
C'est-à-dire ?
Est-ce que l'air du temps, est-ce que tu la sens ? Est-ce que tu t'en protèges ? Est-ce que au contraire, tu dis tiens, ça peut marcher en ce moment ? Qu'est-ce que
OK.
Est-ce que au contraire, il y a des artistes qui veulent pas, il y a des artistes qui remarquent ici jamais personne a dit ah, j'aime bien regarder l'air du temps. Ouais.
Et je saute sur l'occasion.
Quand on se balade dans les foires, on voit bien qu'il y a des
tendances.
Des tendances. Ouais. Quand on fait les festivals, c'est la même chose.
Je dirais un peu inévitablement, en fait. Pour être très concret, on va dire.
Pour préciser, est-ce que tu t'es déjà dit, j'avais l'intuition de faire ça, de donner cette forme-là à mon travail, mais c'est mort là. Il y a déjà trop de.
Alors très concrètement comme ça, non. Mais par contre, la façon dont on produit les pièces, qu'elles soient en atelier seules ou qu'elles soient dans des appels à projets ou avec des producteurs, les trois thèmes en ce moment, c'est quoi ? Ça va être les questions de genre, l'écologie et puis postcolonial. Voilà. Il y a d'ailleurs plus grand monde pour s'intéresser aux questions du numérique. Ça devient plus difficile, mais c'est hyper prescripteur. Je dis une bêtise ?
Non, c'est bien.
Enfin, je veux dire, c'est hyper prescripteur. Les conditions de production, le fait de travailler seul dans son atelier en utilisant l'argent de son salaire pour produire ses pièces, c'est de toute façon extrêmement prescripteur. Bon, alors, je vais peut-être décevoir les étudiants qui disent quoi ? On n'est pas tout libre et tout machin. Bah, non, évidemment. Désolé. Il y a quand même une grande liberté, mais ça influe. Et puis, moi qui ai la chance ou l'intérêt ou qui ai eu envie de naviguer entre le spectacle vivant, l'art contemporain, l'art numérique, les commandes publiques, les attentes des commanditaires, les attentes des publics, les fonctionnements et les paradigmes sont très, très différents. Et moi, je vois bien la place que ça peut prendre.
Oui, je pense que c'est aussi ça qu'elle demande, qu'elle pose la question, c'est qu'il y a un langage commun aussi.
Bien sûr.
Et est-ce qu'il faut être dedans ou est-ce qu'au contraire, il faut s'en échapper C'est des questions.
Oui, évidemment, tout artiste dira qu'il faut en échapper pour être singulier, je sais bien. Alors, du coup, je vais me valoriser. J'ai gagné une fois un prix, je ne sais plus comment il s'appelait, le prix RAN, il y a 10 ans, parce que je me souviens d'intitulé Hors sujet par talent. Voilà, donc en gros, mon truc était un peu à côté de la plaque, mais ça m'a été convaincu, quoi. Je trouvais ça pas mal.
C'est un bon flex.
Hors sujet par talent, je me suis dit, tiens, ça c'est bien. Voilà.
Le réseautage, tout ça, c'est important dans ton métier. Être à Paris, par exemple.
Je suis très mauvaise là-dedans. Ça fait partie des choses que je n'ai jamais fait suffisamment.
Ouais.
Je ne fais pas les galeries, les vernissages. Je ne fais pas du tout. Enfin, ou tellement peu que c'est. Et c'est certainement un très gros préjudice professionnel, certainement. Certainement.
Tu crois ?
Ouais, je pense quand même, ouais. Parce que je vois bien, parfois, je fais trois trucs et toc, ils déclenchent quelque chose. Bon, après, de toute façon, si je sortais tout le temps, je pourrais pas répondre à 50 000 demandes non plus. Mais ouais, je pense quand même. Beaucoup de choses se font sur la rencontre, l'échange.
Ok.
Les réseaux sociaux, le mailing, la prospection, les contacts. Comment tu gères ça, toi ?
Comme une vieille.
Ok, donc on est sur un axe boomer.
C'est ça, c'est-à-dire que j'ai un Facebook.
Ah, bien joué.
Voilà. Alors,
on n'avait pas entendu ce mot aujourd'hui, donc
voilà. Très bien. Donc j'ai un Facebook sur lequel je mets des trucs, j'ai un Instagram sur lequel je mets des trucs. Je ne fais pas de story, je ne démarche pas 50 000 commissaires d'expo en leur envoyant des stories, en likant leurs trucs. Ça, c'est, je veux dire, d'un point de vue cérébral, pour moi, c'est un envahissement psychique que je ne peux pas gérer. Avec les conséquences professionnelles que ça peut avoir. J'ai une amie qui m'a dit, mais regarde, tu fais ça, tu likes son truc, et après, c'est comme ça que j'obtiens des exploits à Singapour et des trucs là, et tout ça, et tout ça. Et moi, je me dis, OK, bah, tant pis. Tant pis. Mais là, par contre, j'ai eu quand même une super remarque pour ce Twitch. Mon fils était épaté, quoi. Il en a parlé à ses amis. Et même ma daronne, elle fait un truc sur Twitch. C'est trop bien, quoi. Voilà.
S'il est là.
Bon, je pense pas. Je pense qu'il faut autre chose, là. Mais voilà. Donc, plus concrètement, je m'y intéresse en termes d'usage, plus pour les questions que ça soulève, sociétales.
Oui, que pour la diffusion.
C'est-à-dire que oui, j'ai un compte X, ex Twitter, j'ai un compte Insta, j'ai un compte Facebook, je regarde comment ces trucs-là marchent parce que ça m'intéresse de voir comment ça marche, de publier trois trucs, de regarder les autres, ce qu'ils mettent dessus, de regarder ma voisine qui publie toutes ses photos de plats, de nourriture. Je me dis, ah ouais, d'accord, les gens font ça. Enfin voilà, je suis plutôt observatrice de comment marche ce truc.
C'est les usages, t'es observatrice des usages.
Je suis observatrice des usages, mais... Là, je parle sérieusement, hein, en termes d'envahissement psychique, je ne pourrais pas être en permanence active à liker un tel pour, on va dire, faire un lien et espérer qu'un tel me like et espérer avoir une expo via un like avec une story. Ça, c'est trop.
Aussi parce que tu n'en as pas la nécessité. Non.
Oui, je suis pas avide là. On peut pas dire que je n'ai aucune activité. Donc effectivement, voilà.
C'est aussi des axes, des manières de bosser. Puis il y a effectivement des boulots qui s'y prêtent peut-être plus que d'autres. Moi, je pense à Thomas. Ah, j'ai oublié son nom. Olivier Masse-Monteil, qui lui a engagé une community manager. Il est très très présent sur TikTok, sur Instagram. Mais ça fait partie de son. Comment il gagne son argent. Il vend ses peintures sur Instagram. Ça lui fait une force de frappe quand il négocie avec des galeries, parce qu'il a plein de followers. Et puis voilà, c'est son équilibre financier en dépend maintenant. D'ailleurs, il y a d'autres artistes qui font ça, mais effectivement, je sais pas, c'est vrai que c'est un sujet compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'on pose la question. Parce qu'il y a le goût que tu peux avoir. Il y a des gens pour qui c'est simple de partager. Ils sont quelque part, tu les as pas vus faire. Ils ont déjà fait trois posts et ça a été très très simple pour eux. Puis il y en a d'autres pour qui c'est dur. Faut écrire sans faire de faute. Je trouve que c'est pas si simple quand t'es artiste d'être à la fois le community manager, le créateur, le représentant.
On fait ça de toute façon. Enfin, je veux dire, c'est quand même souvent des choses mélangées, hein. C'est rare d'avoir un agent complètement externe. Alors, quelqu'un qui est un community manager, moi, j'en ai. Enfin, les artistes autour de moi, j'en connais pas. Voilà, j'ai quelques amis qui sont très actifs sur les réseaux et ça leur amène de la visibilité, ouais, certainement. Mais après, moi, je vends pas non plus de peinture. Enfin, je veux dire, il faut avoir des œuvres Instagrammables aussi. C'est pas facile, ça, d'avoir des œuvres Instagrammables. C'est pas facile. Enfin, quand on parle de l'implication de la production sur le travail, là, on y est, mais grand format, quand même. Là.
Oui, bien sûr.
Il vaut mieux que ce soit quand même des aplats colorés plutôt que des glacis subtils. Ce qui est d'ailleurs le cas d'Olivier Masse-Monteil. Enfin, bon, à moins qu'il ait changé de boulot, mais...
Non, mais c'est vrai. C'est, vrai.
Ah, c'est plutôt subtil, quand
même. Oui, c'est plutôt subtil, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, mais justement, c'est peut-être là aussi le talent, c'est qu'il a réussi à mettre sa subtilité, quand même.
Tout à fait.
Pour moi, c'est un mystère. Hein. J'essaie de comprendre.
Je parlais avec un autre artiste là-dessus, lui, voilà, qui Pascal Dombis, qui est beaucoup sur, d'après ce qu'il m'a dit, l'Asie ou l'Amérique latine, et il se sert beaucoup de ça. Ouais.
Okay.
Donc, c'est d'autres types de réseaux.
C'est quoi la pire chose qu'on t'a dit pendant un vernissage? Alors, tu nous as raconté une tout à l'heure.
Je t'ai raconté ces blagues-là. Oui, je peux raconter la deuxième. Alors, c'était peut-être pas pendant un vernissage. Mais là, récemment, j'ai livré une commande publique pour le lycée Simone Veil de Gragnac, en Occitanie. Et je ne sais pas, peut-être un an après, le commanditaire m'envoie un document PDF de 2 pages d'un prof qui voulait corriger l'œuvre. Donc, il montrait... parce que c'est une œuvre qui traduit en code binaire une phrase d'Ada Lovelace. Enfin, voilà. Et lui, il trouvait que le code était mal traduit, qu'il fallait le faire comme ça. Donc, il expliquait comment je devais corriger... corriger l'œuvre, il y avait toute l'explication. Le commanditaire me l'a envoyé, j'ai dû rappeler la développeuse qui m'a aidé et puis qui a dû réexpliquer, ben oui, mais nous on a codé de telle et telle façon, donc c'est bon, voilà. Comme une copie, quoi.
Oui.
Voilà, c'était particulier quand même, quelqu'un. Bon, j'ai juste répondu sur le fait que, ce que je proposais n'avait pas d'erreur. Pourquoi ça n'avait pas d'erreur? Que de toute façon, je n'en ai pas corrigé. Enfin, je veux dire...
Et puis peut-être que... Ouais. Tant pis aussi.
Et puis, de toute façon, tant pis. Oui, c'est, je veux dire, là, on est sur une œuvre poétique. S'il y a un 1 ou un 0 qui est décalé, on s'en fout un peu.
Bien sûr, oui.
Voilà.
C'est drôle.
Voilà.
C'est quoi ta plus grosse bêtise que
tu
as fait?
Ah oui, tu m'as posé cette question. Je sais pas, plein sûrement, mais une. Je sais pas.
T'en as pas? Bah non, mais.
Non, mais sûrement plein, mais.
On passe à l'aspect concours résidence. T'as déjà répondu là-dessus, que tu faisais des concours, machin. Est-ce qu'on peut parler de l'accrochage? Est-ce que, vu ta pratique, comment ça se passe? Est-ce que tu le fais toi-même? Est-ce que t'aimes ce moment-là? Est-ce que ça te fait chier?
Je le fais toujours moi-même. Moi, j'appelle ça plutôt un setup. Parce que c'est un peu genre en performance voire numérique. Non, c'est hyper excitant, c'est bien. Parfois, je suis en équipe quand même, je suis pas toute seule. Mais oui, des artistes que ça fait chier, ouais, peut-être.
Oh oui. Bah, quand ils ont fait le freinois, parfois, c'est... j'ai remarqué qu'il y avait.
Je sais pas, je suis rarement toute seule en fait pour tout faire. Hein.
Ok.
Mais parfois quand même. En fait, j'aime bien avoir une économie de projet qui peut être très variée. Par exemple, pour mes performances, ça peut m'arriver de mettre tout dans ma voiture. J'y vais toute seule, j'arrive. Bon, en général, j'ai quand même un régisseur qui m'accueille sur place. Je monte mes trucs, je fais ma performance, je repars, toc, je recharge tout, je remonte ça chez moi. Enfin, c'est une économie extrêmement modeste. Et puis, évidemment, moi, j'ai beaucoup d'éléments d'œuvres, notamment les commandes publiques, qui sont produits par des sociétés qui produisent des œuvres d'art. Enfin, je ne pose pas 47 mètres carrés de mosaïque, je ne construis pas un mur de 70 mètres de long en métal qui pèse 1,5 tonne. Voilà. Donc là, j'ai...
Et justement, jusqu'où tu vas dans le suivi physique, par exemple, d'une pièce comme ça?
La livraison, jusqu'à la réception.
Ouais, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des moments où, entre le montage matériel et l'idée, il y a des distorsions, des couacs entre ce qui était prévu et ce qui est fait? Est-ce que ça génère
certainement
des trucs interminables parce que c'était pas fait comme il fallait ou...
Alors ça, je fais pas trop.
Non.
Ouais.
Parce que on pourrait se dire aussi, ça arrive des fois d'accepter qu'il y ait un léger décalage entre le projet et la livraison du truc.
Disons que j'ai pas des projets conceptualisés à 150% et complètement loqués et du coup, je peux pas dire qu'il y a un décalage énorme entre ce qui est livré à la fin et les choses, elles se font. Là, je pense à cette commande publique au rectorat de Lille. Il y a aussi un espace, il y a aussi une distance où le public va regarder l'œuvre. Du coup, je l'ai maquettée quand j'étais à la Générale en résidence, là, il y a plusieurs années maintenant. Je teste en cartonnage pour voir comment on appréhende l'œuvre, comment on apprend la lecture des extraits d'archives. Je dois certainement laisser passer des choses. Ouais. Non, je ne fais pas refaire 50 fois. Non, mais il y en a qui le font.
Oui, ils peuvent. D'où la question et le rapport.
Oui, certainement.
C'est un peu la même chose.
Comment ça se passe avec le commissaire, la commissaire? T'aimes bien bosser avec des curateurs ou pas? Enfin, c'est quoi le...
Alors, c'est quoi le quoi? Si c'est sympa, si c'est chouette, c'est quand même l'occasion de parler du boulot. C'est quand même plutôt bien. Les commissaires, c'est quand même l'occasion de parler un peu du travail. Pourquoi le travail intéresse à tel endroit? Comment il fait partie du projet? Alors là, j'imagine que tous les artistes apprécient ça. Enfin, j'en sais rien. Bon, moi, j'apprécie.
Oui.
Peut-être en repensant à mes étudiants, qui doivent être parfois, et je le comprends, fatigués d'être un peu sous les feux de la rampe des profs qui les critiquent ou qui leur font des retours ou des machins. Et pour eux, ça peut être pénible. Ou pas, parfois, ils apprécient quand même. Mais en tout cas, peu mesure, et c'est normal qu'après, ils auront beaucoup moins de retours. On a quand même très peu de retours, alors à moins d'être une grande star, ce qui n'est pas mon cas. Mais on a quand même peu de retours sur le travail. Donc ça, c'est intéressant quand même. C'est quelque chose qu'on peut échanger avec les commissaires sur le contenu. Les enjeux, les retours, voilà.
C'est vrai que c'est très précieux d'avoir un retour de quelqu'un et effectivement on se sent bien seul quand on sort de l'école. Mais le commissaire, c'est aussi quelqu'un qui peut peut-être un peu te déposséder de ton travail en se l'appropriant autrement et il y a des fois des artistes qui ont un peu de mal à supporter ça.
Alors là, il y a une anecdote qui me revient. C'était vraiment au tout début, dans les années 90, quand je suis sortie des Beaux-Arts. Donc, j'ai voulu faire le Salon de Montrouge, comme beaucoup de jeunes artistes, qui n'étaient pas du tout ce qu'il est maintenant. j'ai oublié le nom de la personne qui gérait ce salon là, c'est trop loin. Et donc je faisais la queue, quoi. Il y avait d'autres artistes devant moi et chaque artiste venait montrer son truc. Hein. On n'envoyait pas un email avec un PDF, hein, s'il n'y avait pas d'email à l'époque, hein, en 93 ou 14 ou 15, je ne sais plus. Donc chaque artiste se déplaçait avec son truc à montrer. Et puis il y avait la commissaire du salon de Montrouge qui regardait. Et je me souviens que le type avant, il avait déroulé un très grand dessin. Et elle a dit, c'est trop grand, il faudrait qu'on le coupe là, comme ça. Voilà, et je me suis dit, j'ai bien vu qu'il était choqué, quoi. Ceci étant dit, moi en performance, le nombre de fois on me demande de raccourcir est phénoménal. Ça ne gêne personne. Ah non, 40 minutes, c'est pas possible, là, 25 max. Je le fais.
Tu raccourcis ?
Ouais. Mais c'est particulier, mais c'est une demande en performance qui semble, qui est récurrente. Alors qu'effectivement, en dehors de cette anecdote, j'ai plus jamais entendu quelqu'un demander à un artiste de couper la moitié de son dessin ou de sa photo, quoi.
Mais c'est vrai que sur les... Oui, bref. Mais ça arrive souvent, effectivement, que la vidéo soit trop longue, que le dispositif, faudrait plutôt qu'elle soit moins panoramique. Ou... Enfin, ça arrive souvent qu'on veuille faire rentrer des carrés dans des ronds.
C'est drôle, j'utilise beaucoup cette expression, j'aime bien. Il y a ça, oui.
Est-ce que tu as une actualité personnelle à venir dont tu veux nous parler, autre que le Festival Hors Piste ?
Eh bien, oui. Là, je vais participer à l'exposition « Ça va être sport » avec la commissaire Julie Sicomaillet, qui sera au château du Val-Fleury en avril. Je crois que c'est ça. Je n'ai pas la date. Et puis, je vais faire... Enfin, la performance que je prépare là, qui s'appelle IA 53 recettes chic et gourmandes, c'est la suite d'une première performance qui s'appelle IA 45 recettes du quotidien rapide et facile. Et donc, ce binôme de performance sera présenté au Quai des Savoirs dans l'exposition IA double jeu en octobre.
Ok.
Voilà.
Si on veut te suivre, on va où alors ? Sur Facebook ?
Alors, ouais, c'est ça. J'arrive à mettre sur Instagram maintenant. Mais sur Facebook, voilà, et Instagram.
Et ton site internet.
Et mon site, mais mon site ne donne pas mes actualités d'expo. Je le réactualise une fois par an pour juste mettre les projets en cours, mais c'est tout.
D'ailleurs, juste une question qu'on a peut-être oubliée. Tu vends ou t'es collectionné ?
Ben non, puisque je ne suis pas en galerie, que je fais des performances et des installations.
Ouais, c'est pour ça que je ne l'ai pas posé.
Bah ouais, je me doute, mais on ne sait pas.
Mais je n'ai pas d'œuvre à vendre, vraiment. Ouais.
Non, mais c'est vrai que la dernière fois, on parlait à David Guèze, il disait qu'il avait des livres qui étaient présentés dans les collections ici.
Ceci étant dit, les deux commandes publiques, enfin qui font partie de genre commandes publiques de musées, ça a été deux sites NetArt, un pour le LAM à Lille et un pour le Jeu de Paume.
D'accord.
Et c'est les deux seules œuvres NetArt que j'ai fait, les deux seules œuvres collectionnées. Donc, c'est amusant.
Et puis des petites collections nulles, quoi.
Ouais, c'est ça.
Le lame et le paume, quoi.
Pas terrible.
Ok. Un truc anecdotique.
Non, mais du coup, c'est étrange dans l'ensemble de mon travail, mais c'est super. Mais voilà.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
À bientôt.
Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les travaux de Magali sur son site. desbazeilles.fr ou sur son Instagram @magalidesbazeilles. Vous pouvez également retrouver toutes les informations de Sans Titre sur Instagram @sanstitre.cast. Merci à Olivier Schloberg pour le générique. Merci à Cyril et à la régie du Centre Pompidou pour son accueil et son soutien. Bisous.